RCF.
Le service militaire accompli. Pierre Claverie est donc ordonné prêtre, on l'a dit. L'idée d'un retour en Algérie qui soit, disons, plus durable n'est jamais très loin et c'est finalement ce qui se passe. Il le demande ou bien on sent qu'il est fait pour ça?
Probablement qu'on sent qu'il est fait pour ça, mais il était aussi fait pour pas mal d'autres choses. Et donc il y a eu une certaine compétition au-dessus de sa tête, si vous voulez.
On voulait l'arracher.
On voulait aussi l'avoir comme permettre des étudiants ou des novices. Et donc ce sont les frères d'Alger, en fait, qui ont fait le forcing pour l'avoir. En disant, lui, là, parce qu'il fallait renouveler les communautés après la guerre d'Algérie, etc., et avoir des gens plus jeunes. Et donc il avait tout ce qu'il fallait, il connaissait le pays, il était heureux dans ce contexte. Et donc, il est très heureux, en effet, quand on lui propose de revenir à Alger en 67.
Alors, il connaît le pays, mais il ne connaît pas la langue.
Il ne connaît pas la langue. Alors, ça, c'est un nouvel aspect de sa personnalité. Il va l'apprendre avec un acharnement extraordinaire, au point d'être capable de l'enseigner au bout de 3 ans. Et la langue arabe est difficile, j'ai autant vous dire. Moi, je m'y suis frotté, c'est pas simple. Et Pierre, donc, va apprendre systématiquement avec des religieuses libanaises qui enseignent l'arabe. Mais c'est une période intéressante parce que c'est juste après l'indépendance et dont les cadres de l'Algérie nouvelle ont aussi besoin, eux aussi, d'apprendre l'arabe parce que la colonisation française a fait que la langue française était la langue dominante. Le peuple parlait l'arabe dialectal mais ne savait pas l'arabe moderne, si vous voulez, l'arabe lettré en quelque sorte. Et donc, il y a tout un travail d'apprentissage de la langue arabe qui est fait non seulement par des gens comme Pierre Claverie, mais aussi par des cadres de l'Algérie nouvelle. Et donc, il va se retrouver sur les bancs de l'école, avec des femmes de ministres, avec des militantes de l'indépendance algérienne, y compris telle ou telle qui avait été probablement poseuse de bombes pendant la guerre. Et donc il va faire un chemin extraordinaire, là aussi, de découverte et de compréhension de l'autre. Et il fera un petit film juste avant sa mort, où il dit, voilà, bon, quand j'ai découvert ça, ça m'a perturbé, ça m'a troublé, mais j'ai essayé de comprendre. Probablement, moi, je n'aurais pas posé de bombes, mais je comprends un peu pourquoi elles en sont arrivées là. Et il va se créer parmi eux un réseau d'amis extraordinaire. Et d'ailleurs, lorsqu'il est ordonné évêque en la cathédrale d'Alger en 1981, je cite une petite phrase très belle, là où, à la fin de la cérémonie, il leur dit « Mes frères et mes amis algériens, je vous dois à vous aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. Vous aussi, vous m'avez accueilli et porté par votre amitié. Je vous dois d'avoir découvert l'Algérie qui était pourtant mon pays, mais où j'ai vécu en étranger toute ma jeunesse, avec vous en apprenant l'arabe. » J'ai surtout appris à parler et à comprendre le langage du cœur, celui de l'amitié fraternelle où communient les races et les religions. C'est splendide. Et moi, j'étais présent. J'ai encore dans la mémoire et dans le cœur l'ovation extraordinaire. Dans cette cathédrale d'Alger, vous savez, une cérémonie d'ordination, c'est épiscopale, c'est un peu solennel. Et tout d'un coup, c'était la Méditerranée qui entrait avec cette jubilation populaire.
Il y a quelque chose de prophétique là-dedans ?
Oui, je pense que ça signifie que si l'Église veut s'implanter dans un pays, veut être dans un pays, il faut qu'elle s'inculture. Et en effet, il était hors de question qu'une Église reste dans l'Algérie nouvelle, algérienne, si elle ne s'inculturait pas dans la culture arabe. Et donc Pierre, en effet, va très bien apprendre l'arabe, il va l'enseigner, et il va se faire, à cause de ses qualités de communicant, mais aussi d'arabisant, de très très bons liens dans plein de milieux culturels, artistiques, qui vont beaucoup lui servir dans toute sa vie.
Donc il tisse vraiment quelque chose, c'est pas une présence un peu plaquée, un peu à côté.
Non, un don pour l'amitié. Il travaillait dur et donc, vous savez, c'est des pays où on aime se voir, les week-ends on va faire des brochettes, on boit un bon coup de vin rosé, enfin je veux dire, il y a une espèce de joie méditerranéenne dans laquelle il était complètement à l'aise. Et même avec, il a continué à vivre comme ça.
Alors il a été responsable du Centre d'études diocésains de langue et de pastorale.
Oui, alors le diocèse d'Alger a toujours d'ailleurs ce qu'on appelle un centre, le centre des glycines du nom de la rue, qui est un centre de formation. Le caractère un peu cocasse de l'époque, c'est que il est choisi par le cardinal Duval, qui était un homme assez traditionnel, assez austère, en même temps un génie en termes d'analyse politique de la situation. C'est lui qui a sauvé l'Église d'Algérie à l'indépendance. Il a compris que l'Église, si elle voulait rester, devait jouer le jeu de l'Algérie nouvelle.
Qui n'avait pas que des amis du côté de l'Algérie française.
Absolument. Mais Pierre, qui était une autre génération, a eu aussi des relations un peu compliquées avec le cardinal, mais tous deux étaient francs et chacun s'estimait. Et j'ai aussi connu le cardinal Duval. Et donc, bien que le cardinal Duval, il est un peu jeune encore, mais voilà, il lui confie ce centre diocésain qui est un centre très important. Et là, Pierre va déployer en effet tous ses talents.
Et alors, ces talents, donc, vous le disiez, c'est en termes aussi d'amitié. Et puis, trouver quelle est la place de l'Église dans cette nouvelle Algérie.
Absolument. Alors, la première étape, ça a été, après l'indépendance, le pays avait évidemment beaucoup besoin d'assistance technique et culturelle. Donc, il fallait former des coopérants. Et ce centre des Glycines leur apprenait l'arabe et, je dirais, les rudiments de la culture algérienne. Les gens viennent avec une compétence, ils sont médecins, ils sont architectes, mais il y a des codes qu'il faut connaître dans un pays et ce centre des Glycines leur apportait cela. Mais Pierre, à travers le centre des Glycines, avait aussi la capacité de nouer toutes sortes de relations. On y organisait des conférences, par exemple. On faisait venir des écrivains, des artistes, des... Vraiment, il tissait un réseau. Et ça a été un moment très riche de sa vie.
Jean-Jacques Pérennes, en 1970, l'Église d'Algérie est également, vous le dites dans votre livre, une Église sous surveillance. Pour quelles raisons ?
Ben, c'est pas évident pour l'Église qui paraît une Église d'étrangers. D'ailleurs, son personnel est étranger. Et donc, d'une certaine manière, elle paraît encore liée au passé colonial. D'une certaine manière, les chrétiens sont revenus. L'Église a été présente au temps de Saint-Augustin, mais elle avait disparu. Elle est revenue avec la colonisation. Et donc, il y avait un vrai défi pour que l'Église retrouve une place juste dans l'Algérie algérienne qui est à dominante musulmane. Et donc ce n'est pas une Église qui est là pour faire du prosélytisme, elle n'est pas là pour convertir des musulmans, elle n'a pas d'ailleurs non plus d'objectif caché, elle est là d'abord pour nouer une histoire d'amitié avec un peuple qui est d'abord musulman, avec la conviction que les chemins vers Dieu sont différents. Mais tout le monde y gagnera si on se rencontre un peu plus, si on se profite un peu du cheminement des uns et des autres.
Elle est inquiétée, cette église, et ses prêtres, religieux, évêques avec elle ?
Il y a des hauts et des bas dans l'histoire. Il y a eu des poussées de fièvre, en effet. Il y a eu au cours des années 70 des moments un peu difficiles parce qu'il y a eu des débats idéologiques assez forts autour de ce qu'on a appelé le débat de la charte nationale. L'Algérie essaie de redéfinir un peu son identité. Ce n'est pas non plus évident pour un pays qui a été colonisé 130 ans. Et donc, on réécrit l'histoire d'une certaine manière, en soulignant le côté arabe, le côté musulman, etc. Ce qui ne plaît pas du tout aux Berbères, entre autres, par exemple. Et donc, évidemment, l'Église est un tout petit peu inquiétée. Les basiliques sont fermées une fois ou deux, etc. Mais c'est jamais absolument dramatique. Et il y avait surtout le parapluie extraordinaire du cardinal Duval, qui a pris la nationalité algérienne à l'indépendance, avec un certain nombre de ses prêtres. Dans les 3 semaines... Le pape Paul VI le fait cardinal, donc l'Église, au plus haut niveau, confirme, authentifie le choix qu'a fait le cardinal et son Église de vivre dans l'Algérie algérienne telle qu'elle est. C'est un soutien complètement explicite. D'ailleurs, que les Algériens ont bien compris et c'était extrêmement fier. Le cardinal à Alger, c'est une institution. Pas besoin de dire quel cardinal, le cardinal, il n'y en avait qu'un. Et encore aujourd'hui, il est mort il y a donc plus de 20 ans, parce qu'il est mort la même semaine que les moines. Et quand on dit le cardinal, évidemment, c'est Duval. Et donc, Mgr Tessier a beaucoup prolongé ça, d'ailleurs, à sa manière.
Voilà. Ils s'inscrivent donc tous dans cette ligne à partir de là.
Oui, alors c'est une église qui, au début, donc, a servi beaucoup le côté assistance, coopération, etc. Et petit à petit, elle a dû trouver une place beaucoup plus modeste.
D'ailleurs, vous soulignez la question qui se pose à un moment donné de savoir ce qu'on va faire des édifices religieux qui, pour certains d'entre eux, sont très visibles et qui, au fond, ne correspondent plus à la réalité.
Ils sont visibles et pour une partie inutiles. C'est-à-dire que le cas d'Oran est typique. Il y avait une très belle cathédrale néo-byzantine. Mais voilà, il n'y avait plus assez de chrétiens pour la remplir.
Et Mgr Clavery intervient dans ses réflexions ?
Quand il sera évêque, il va négocier avec le ministère de la Culture pour que cette grande cathédrale devienne un centre culturel, une bibliothèque culturelle. Et en contrepartie, le ministère de la Culture lui aménage une cathédrale plus petite et un évêché. Donc je veux dire, ça s'est passé très gentiment et sans violence. Mais encore fallait-il avoir l'intelligence de ne pas mettre en compétition. Et l'Église, si vous voulez, doit chercher sa place juste. Et quelle est la place juste ? C'est d'abord une place au service. Au service.
Au service de qui ?
Au service de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des jeunes scolaires qui n'ont pas de lieu pour travailler, donc l'Église va mettre ses locaux au service de bibliothèques d'accueil des jeunes scolaires, au service des personnes handicapées, au service d'associations, etc. Une Église au service et une Église de la rencontre. et qui a pour but d'essayer de vivre sa foi, j'allais dire en osmose, avec un monde qui est musulman, mais qui lui aussi vit une foi.
Une église qui se trouve dans la maison de l'islam.
Oui, c'est l'expression qui est souvent utilisée, Dar el-Islam, oui, c'est...
Pour terminer cet entretien, Jean-Jacques Pérennès, on a l'impression que Pierre Clavry est beaucoup uniquement, disons, dans l'action, dans la rencontre, dans l'amitié. Il parle quand même aussi beaucoup de contemplation. Est-ce qu'on peut dire que c'est un contemplatif ?
Ah oui, c'est d'ailleurs très étonnant. Mais je pense d'ailleurs qu'il n'aurait pas tenu s'il n'avait pas eu cette forte structuration personnelle. C'est un homme qui se levait tôt le matin, qui avait 100 ans de prière. Je veux dire, il ne dérogeait jamais. Et son dernier vicaire général, Thierry Becker, a raconté son horaire, puisqu'il vivait avec lui à l'évêché d'Oran. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les urgences, il y avait le temps d'oraison le matin, les laudes, la messe à midi, le temps de prière le soir. Je veux dire, il y avait cette espèce de basse continue, comme on dit en musique, hein, et qui, je crois, lui permettait en effet de tenir.
C'était son endroit de ressourcement.
Oui, mais ça doit l'être d'ailleurs pour tout croyant et tout prêtre et religieux en particulier, je veux dire.
Sinon, quel est le risque ?
Plus on a une vie active, plus on risque de tomber dans l'activisme et la superficialité et l'épuisement d'ailleurs, parce que la prière, c'est un lieu de ressourcement. Et de fait, on sentait que cet homme était nourri par sa prière, par sa fréquentation de l'évangile, par l'Eucharistie. On le voit d'ailleurs dans les très très belles retraites qu'il a prêchées et qui ont été publiées. Il y en a eu 7 ou 8 de publiées sur l'Eucharistie, sur la rencontre, etc. C'était un homme vraiment habité.
Merci beaucoup et à demain.